Bonjour. 300 salariés polonais qui font débat chez PSA après l'annonce de leur transfert à l'usine d'Ordin dans le Nord. Le gouvernement demande aux constructeurs d'y renoncer et de privilégier l'embauche d'intérimaires français. La SNCF en correctionnel, 7 ans après l'accident de Brétigny qui avait fait 7 morts. Les juges d'instruction ordonnent un procès pour la compagnie nationale et pour l'un de ses cadres à titre individuel. Une nouvelle journée de mobilisation du comité Adama Traoré. 20 000 personnes attendues à Paris pour dénoncer leur racisme et les violences policières. Pour les syndicats de police qui se disent stigmatisés par une minorité et se sentent lâchés par leur ministre, la situation n'est plus supportable. Dans ce journal également, la fête des librairies indépendantes, particulièrement bienvenue pour oublier définitivement la crise. Des 24 heures du Mans virtuel avec quelques pilotes désœuvrés de Formule 1. Et puis des records de pluie dans le Massif central et les Cévennes hier. Deux départements toujours en vigilance orange aux inondations. Des risques d'orages en région PACA ce soir.
France Inter.
Et revoilà les plombiers polonais. On se souvient du débat sur les travailleurs détachés, à peu près résolu depuis plus de 2 ans. Le plombier qui faisait référence a été remplacé ce matin par l'ouvrier polonais. Et c'est le gouvernement qui remet le sujet sur le tapis. Mais il s'agit cette fois d'ouvriers déjà salariés. Après l'annonce par PSA d'un transfert à Ordin dans le Nord de près de 300 salariés d'une usine polonaise, les ministres Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud demandent aux constructeurs d'y renoncer et de privilégier l'embauche d'intérimaires français. Responsabilité politique et sociale d'un côté, urgence économique de l'autre. Delphine Simon, ce sont deux logiques, deux priorités différentes qui s'affrontent.
C'est par un coup de téléphone que Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire ont prévenu la direction de PSA que son initiative est malvenue. Pour les ministres, les entreprises doivent tout faire pour protéger l'emploi en France dans la situation actuelle. Pour PSA, ces mobilités existent déjà en France. Elles s'inscrivent dans une solidarité industrielle, d'autant qu'en Pologne, les ouvriers ne sont pas couverts par du chômage partiel. Pour Jean-Pierre Mercier, délégué CGT du groupe PSA, c'est la logique économique qui prime une fois de plus.
Depuis des années, PSA joue les intérimaires contre les CDI en France. Maintenant, il joue les Polonais, les Espagnols, nos camarades allemands contre les intérimaires. C'est une mise en concurrence des salariés les uns contre les autres en les sous-payant et en les surexploitant.
Vu la polémique, la CFTC ne voit pas comment PSA pourrait élargir ses mobilités entre les sites européens, car la logique économique n'est pas tout dans une entreprise, rappelle Franck Donne, son délégué central.
Une entreprise doit être menée, bien évidemment, de manière économique, parce que c'est un facteur de développement de l'entreprise, mais pour autant, elle a également une forte responsabilité sociale. Et le fait de prendre des intérimaires ressort de la responsabilité sociale.
Avant le Covid, PSA comptait 8000 intérimaires partout en France. Au dernier pointage, ils ne sont plus que 400 tout au plus sous contrat, dit-il.
Delphine Simon. On se sent stigmatisé après les policiers depuis 2 jours. Les manifestants du comité Adama prennent le relais ce samedi dans les rues après avoir manifesté déjà le 2 juin dernier, toujours pour les mêmes raisons, dénoncer les violences policières et le racisme latent des forces de l'ordre. Des deux côtés d'ailleurs, c'est le même sentiment qui domine, le sentiment d'être stigmatisé. C'est le cas des forces de l'ordre, on va l'entendre. C'est aussi le cas bien sûr du comité Adama Traoré qui demande justice pour le jeune homme décédé en juillet 2016. Après son interpellation par les gendarmes et qui appelle à de nouveaux rassemblements cet après-midi partout dans le pays. 15 à 20 000 personnes sont attendues notamment à Paris au départ de la place de la République où les commerces ont été invités à tirer leur rideau sur tout le parcours jusqu'à l'opéra. Invité de ce journal, Almami Kanouté, militant, membre du comité Adama, bonjour.
Bonjour.
Vous comprenez cette réaction des policiers depuis quelques jours, les policiers qui dénoncent la globalisation des critiques que vous leur faites en visant toute la police à partir de quelques affaires. Vous comprenez ça ?
Je l'entends, mais je n'arrive pas à comprendre que des fonctionnaires d'État qui sont censés servir et protéger la société civile ne comprennent pas qu'une partie de la population, une bonne partie de la population, sont fatigués d'essuyer des violences, des injures, parfois racistes, de la part de fonctionnaires d'État qui sont censés nous protéger. Et cela, qu'on ait commis ou non des délits, qu'on ait un casier ou non, nous sommes des citoyens à part entière. Et cette critique, ils devraient l'accepter. Parce qu'à un moment donné, nous entendons qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions. Nous entendons et comprenons que pour travailler sereinement, il y a besoin d'être dans un environnement serein. Et j'ai envie de dire que là, il faut qu'on fasse très attention. Nous faisons face aux mêmes irresponsabilités politiques qui mettent à dos la population et la police. Le discours que j'ai envie d'apporter, c'est que nous ne sommes pas les ennemis de la police. Au contraire, nous, ce que nous exigeons à travers cette mobilisation, c'est dans un premier temps que justice et lumière soient faites sur la mort d'Adama Traoré et de toutes les victimes de violences policières qui malheureusement sont survenues après la mort d'Adama Traoré. Mais il y a eu énormément avant.
Mais est-ce qu'il faut toujours faire le lien, Almami Kanouté, entre le racisme et les violences policières? Est-ce que c'est toujours lié?
Bien sûr, c'est lié. Le racisme est une forme de violence. Et quand vous avez ces fameux audios qui nous prouvent que nous avons raison depuis un certain nombre d'années, que des citoyens français, quelle que soit leur appartenance politique ou idéologie, intègrent la police pour justement user leur droit de, entre guillemets, violence légitime envers des individus qui les dérangeraient. Et ça, il est inacceptable de se rendre compte que la police française est gangrénée par des hommes et des femmes qui ont pour seule intention de casser du nom-blanc, j'ai envie de dire. Oui. Je ne dis pas que le racisme est le seul problème au sein de la police. Il y a des personnes qui ont la matraque légère.
Vous êtes...
Vous voyez ce que je veux dire?
Vous êtes
et, pour moi, je pointe du doigt la formation initiale des policiers. Pour moi, j'ai eu affaire de nombreuses reprises à des policiers que j'estime très mal formés.
Vous êtes comédien, Almami Kanouté, on vous a vu dans le film Les Misérables, qui raconte justement le quotidien d'une patrouille dans une cité de banlieue, dans le Val d'Oise. On y voit sans manichéisme d'ailleurs qu'il n'y a pas de gentil, pas de méchant, mais une spirale, une situation très difficile à gérer, une grande incompréhension de part et d'autre, en fait.
Oui, exactement, à travers le film de Lajli, son message était très clair. C'est que la misère, aujourd'hui, provoque des situations irréversibles. C'est-à-dire, vous avez d'un côté une partie de la société civile qui, essuyant des impunités, des injustices au quotidien, et qui n'ont aucune réponse politique en face. Donc, vous avez des personnes qui commettent des incivilités. Effectivement, la loi doit intervenir, mais cela ne veut pas dire que quand la loi doit intervenir, on doit forcément péter la gueule d'un gamin, par exemple. Je pense au gamin de 14 ans qui a été pris la main dans le sac en train de voler un scooter. On ne dit pas que le gamin est dans son droit. On dit juste que quand un gamin commet un délit, ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit le saisir.
Merci.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Merci beaucoup.
Ces gamins-là ne méritent pas la mort.
Évidemment.
Parce qu'ils habiteraient un quartier populaire, ou parce qu'ils seraient noirs, ou parce qu'ils seraient arabes ou musulmans. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien.
Et c'est ce raisonnement-là qui est logique. Normalement, on ne devrait même pas avoir de crainte ou de peur vis-à-vis de la police, puisqu'elle est là pour nous servir, nous protéger.
Bien compris.
Et malheureusement, une bonne partie de la population sort dans les rues aujourd'hui pour exprimer leur colère vis-à-vis de ces fonctionnaires qui ne méritent pas de représenter
Almami Kanouté, militant membre du comité Adama, merci beaucoup. Ces manifestations contre les violences policières sont évidemment mal reçues du côté des forces de l'ordre, qui déjà ne se sentent plus en phase avec le ministre Christophe Castaner, qui a écrit au syndicat pour leur préciser son point de vue, notamment que seuls des faits avérés de racisme entraîneront des suspensions, qu'en revanche la clé d'étranglement ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Pour les policiers, tout ça n'est pas clair. Les tergiversations de Christophe Castaner s'ajoutant aux manifestations anti-flics, ce n'est plus supportable, comme l'a répété ce matin le secrétaire général adjoint du syndicat Alliance, Olivier Ourcault.
Tous les faits avérés, il y a des enquêtes judiciaires qui sont déclenchées sous couvert du parquet par l'IGPN, avec des traductions au conseil de discipline. Ça ne concerne qu'une minorité d'affaires. Le racisme dans la police est répréhensible, comme dans toute la société, dans toutes les institutions. Nos collègues se sentent attaqués, lynchés médiatiquement ou lynchés par une minorité. Aujourd'hui, un policier ne peut plus exercer sa mission sans dire qu'il y a une violence. Il est filmé dans des missions systématiquement. On remet jamais dans le contexte de l'intervention. on lance en pâture comme ça des vidéos qui sont instrumentalisées par certains. Et tout ça fait que, bien évidemment, c'est très compliqué de gérer des situations, des interventions difficiles, mais les policiers interviennent avec des gestes techniques appris à l'école. Il y a une minorité qui stigmatise les policiers. Il doit y avoir un gouvernement qui soutient sa police. Et il est important que le chef de l'État l'entende.
Un responsable du syndicat Alliance au micro de France Info. Si en France, c'est le nom d'Adama Traoré qui fait aujourd'hui référence, aux États-Unis, c'est celui de George Floyd, dont le décès a fait écho partout dans le monde, jusqu'en Australie, où le mouvement Black Lives Matter est repris par les aborigènes, particulièrement sensibles à cette question des contrôles policiers. Les aborigènes qui manifestaient hier soir à Sydney, malgré les interdictions liées à la crise sanitaire. Grégory Pless nous appelle de Sydney.
Malgré l'interdiction, des centaines de personnes ont défilé hier soir à Hyde Park, en plein cœur de Sydney, pour dénoncer une nouvelle fois les violences policières. Les aborigènes, plus que toute autre catégorie de population, y sont particulièrement exposés.
Une personne aborigène a 20 fois plus de risques de se faire arrêter par un policier que le reste de la population sur une simple suspicion.
Et bien plus souvent également, ils risquent de finir en prison. Les aborigènes représentent 3% de la population australienne, mais 30% de la population carcérale. Un taux d'incarcération bien plus élevé encore que celui de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Les aborigènes, eux, ont 15 fois plus de risques de finir en prison que le reste de la population. Et c'est pire encore en ce qui concerne les enfants. 60% des mineurs en détention sont également des aborigènes. Toujours marginalisés au sein de la société australienne, leur espérance de vie est de 8 ans plus courte que celle du reste de la population. Grégory Pless, Sydney, France Inter.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
La SNCF en correctionnel, 7 ans après la catastrophe de Brétigny qui avait fait 7 morts et des dizaines de blessés. Les juges d'instruction ont clos leur enquête. Ils renvoient la compagnie nationale en tant que personne morale et l'un de ses cadres à titre individuel devant le tribunal. Tous deux seront poursuivis pour homicide et blessures involontaires, Jean-Philippe Degnaud.
Ce procès sera d'abord celui de la SNCF, de ses choix économiques et stratégiques, de sa politique de restriction budgétaire aux dépens de la sécurité. Mais sur le banc des prévenu, il y aura aussi un homme, un seul, un jeune cadre cheminot de 24 ans à l'époque, le dernier à être allé vérifier la voie une semaine avant le drame. Les magistrats lui reprochent de ne pas avoir constaté qu'une éclisse avait pivoté et avait fait sortir un rail de sa trajectoire. Pour maître Xavier-Philippe Gruvez, qui représente une dizaine de victimes de la catastrophe, cette seule mise en cause est insuffisante.
C'est le dernier arrivé, premier servi en quelque sorte, puisqu'il était le dernier à être en poste sur le secteur de Brétigny. Or, les défauts de maintenance, il faut bien comprendre qu'ils remontent à plus de 10 ans en arrière. On aurait préféré qu'il y ait toutes les personnes physiques concernées qui soient renvoyées devant le tribunal correctionnel pour vraiment mettre un visage sur les responsables et pour qu'ils soient jugés et pour qu'on ait une vérité judiciaire qui éclate et non pas un semblant de vérité. On a pris le dernier. C'est le dernier qui a commis une négligence, qui se fait attraper. C'est un peu dommage.
Le procès, qui devrait durer plusieurs mois, ne sera pas audiencé avant l'année prochaine devant le tribunal correctionnel d'Evry.
Jean-Philippe Degnaud, on est allé chercher le bouc émissaire. A simplement réagi ce matin le secrétaire fédéral du syndicat Sud Rail. En bref, à Marseille, l'ouverture d'une enquête préliminaire sur de possibles fraudes aux procurations. Enquête visant des militants et candidats LR aux prochaines municipales. Une perquisition a eu lieu ce matin au local de campagne de la tête de liste Martine Vassal, qui est évoque l'erreur d'une colistière. 1 000 à 1 500 euros de prime pour les personnels hospitaliers et des EHPAD. La prime exceptionnelle annoncée par le gouvernement a été confirmée dans le journal officiel. Exonérée de toute cotisation et de tout impôt, elle sera versée au personnel ayant exercé au mois d'avril en pleine épidémie de Covid-19. Ils ont beaucoup souffert du confinement, mais ils sont aujourd'hui rassurés. En partie, les libraires fermés comme tous les commerces non alimentaires jusqu'au 11 mai ont aujourd'hui retrouvé en grande partie leur clients. Et la fête des librairies indépendantes ce samedi devrait encore y aider. 500 librairies de France, de Belgique, du Luxembourg et de Suisse y participent, comme ici à Pornic, en Loire-Atlantique, Anne Patinec.
Dans la rue principale de Pornic, l'encre bleue se repère à sa vitrine bleue de part et d'autre de la chaussée. Yann Lègle a ouvert sa librairie il y a 4 ans. Il compte de nombreux habitués, comme Agnès. Grande lectrice, elle se refuse à commander sur Internet ou à acheter ses livres auprès de grandes enseignes, surtout que leur prix est fixe.
C'est important que les commerces de la ville perdurent, donc il faut les faire vivre. Et même, vous voyez, pendant le confinement, il y avait un service de livraison à domicile, et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je ne souhaitais pas commander des livres autrement.
Car pendant le confinement, Yann Lègle a effectué autour d'un millier de livraisons à domicile, et depuis la réouverture de son commerce, les clients lui parlent encore plus de proximité.
Il y a quelques personnes qui nous disent maintenant... Je vais plutôt aller voir les indépendants, surtout les commerces de manière plus locale, parce qu'on a envie de changer un peu les choses, revoir un peu ses habitudes.
À l'encre bleue, Agnès trouve aussi du conseil.
Je me suis fait conseiller par exemple pour les enfants, pour une de mes filles qui aime les romans policiers alors que moi j'en lis pas. Je sais qu'elle a apprécié ce qui m'avait été conseillé par le libraire.
Et depuis le déconfinement, Yann Lègle continue à livrer certains clients fragiles qui ne souhaitent pas prendre de risques en venant au magasin.
Voilà, on ira tous en librairie pour cette fête qui est habituellement à l'agenda le 25 avril. En sport, dans la famille des grands rendez-vous annulés ou reportés, je voudrais les 24 heures du Mans. La course a été reportée en septembre. Ce sont donc des 24 heures virtuelles qui débuteront tout à l'heure à 15h. Les pilotes se relaieront derrière l'écran. Et quel pilote ! La course en vrai n'aurait pas fait mieux. Fernando Alonso, Jenson Button, Simon Pagenaud ou encore 5 pilotes en activité en Formule 1 comme Max Verstappen, Charles Leclerc ou le français Pierre Gasly. Avec aussi des habitués du Mans, bien sûr, dont le canet Pierre Rague, Didier Charpin.
Dans la vraie vie, il roule pour Alpine en LMP2. Son écurie a rapidement choisi d'inscrire son équipage pour ses 24 heures virtuelles. Et depuis, Pierre Rague est étonné par les noms qui se sont ajoutés sur la liste des engagés.
Il y a une affiche de pilote de réel en activité qui est juste dingue, que oui, forcément, on rêve de l'avoir en 24 heures. Mais il y a aussi une affiche des gamers pro qui seront aussi présents. Ça a l'air d'être un très très gros niveau. Ce qu'on a vu sur les serveurs test, ça a l'air de rouler très très fort.
Ces gamers pro, pilotes officiels spécialisés dans la course virtuelle, seront en effet redoutable, tout simplement parce que plus à l'aise avec l'outil informatique. Et oui, une voiture virtuelle ne réagit pas comme une réelle. Pierre Rague l'a d'ailleurs constaté lors des premiers entraînements.
Même si c'est une Alpine, le design extérieur est la même, mais forcément elle réagit différemment parce qu'il y a du virtuel, quoi, donc ça ne peut pas réagir exactement pareil.
Pour ces 24 heures virtuelles, Alpine alignera donc un gamer pro, Nicolas Longuet, aux côtés de son trio de pilotes sur piste, Pierre Rague, Thomas Laurent et André Negrao, brésilien confiné au Brésil, ce qui pourrait constituer un avantage.
Forcément, par rapport au décalage horaire du Brésil, quand il fera jour chez lui, il pourra rouler de nuit en France.
Des 24 heures, chacun chez soi donc, mais avec l'impatience de bientôt se retrouver en septembre pour la vraie course.
Voilà, le week-end des 19 et 20 septembre. Avec ou sans spectateurs, on ne sait pas encore. Dans un instant, la météo. Deux départements du Massif central sont en vigilance orange inondation. Hier, ce sont des quantités de pluie exceptionnelles pour un mois de juin qui sont tombées dans le grand quart sud-est, jusqu'à 4 à 5 heures d'orage, parfois accompagnés de vents violents, comme ici dans le Gard, commune de Corbès, où Luc habite une maison au bord du Gardon. Il a été pris de court par la crue.
C'est monté très très vite, plus de 3 mètres, avec beaucoup 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 de vent.
Vous attendiez à ce que ça monte autant ?
Non, pas du tout. Moi, j'avais jamais vu ça à cette période de l'année. Vraiment très surpris, même dans la nuit, quand je me suis levé, je pensais pas que 4 heures après, ça allait avoir atteint ce niveau-là de fortes précipitations. Alors ça vient en rafale très très fort pendant 10 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure, puis après ça se calme et puis ça repart. Ça ressemble vraiment à ce qu'on connaît habituellement au mois de septembre-octobre, là, quand il y a les fameux épisodes Cévenol. Il y a eu du vent toute la nuit, au vent contraire au sens du Gardon, au sens du courant, donc ça aussi jouait sur la décrue.
Un témoignage recueilli par Sarah Nejjar de France Bleu Gard Lozère. Jusqu'à 350 mm sont tombés dans le Gard, soit l'équivalent de 3 à 4 mois de pluie. Le précédent record en 24 heures remonte à 1903. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski.
Une ambiance plus calme aujourd'hui sur l'axe Midi-Pyrénées-Hauts-de-France, où le risque d'averse et d'orage est minime. Par contre, de part et d'autre, la probabilité est beaucoup plus avérée. Sur la partie ouest de la Nouvelle-Aquitaine aux rives de la Seine, le temps instable en cours va s'estomper ce soir, avec dans la masse des orages modérés. En revanche, sur les régions les plus à l'est, l'air chaud qui remonte de Méditerranée va donner des orages puissants dans le quart sud-est, avec de fortes précipitations, notamment sur PACA et sur la Corse. Corse. Et dans l'après-midi, d'autres cellules orageuses vont se former entre Champagne-Ardenne, l'Alsace, la Franche-Comté et la Bourgogne, avec pour la nuit prochaine un intermède très pluvieux près des frontières du Nord-Est. Les températures de l'après-midi, comprises entre 18 et 21 degrés près de la façade atlantique, atteindront 23-26 plus à l'est, avec par exemple 26 prévus à Lille et à Strasbourg et 23-25 sur l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, en Rhône-Alpes, sur la Bourgogne et la Champagne.